Donc ce soir, on continue la doctrine et nous allons achever la doctrine du Saint-Esprit. Nous avons vu la dernière fois ce qui concernait les ministères d'anciens et de diacres. Et avant de clore tout ce grand chapitre sur le Saint-Esprit, il nous reste un dernier point à envisager. C'est le Saint-Esprit et la glorification. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que le Saint-Esprit sera avec le croyant dans le ciel? Or, la réponse est très claire, c'est oui, indiscutablement. À la Samaritaine, dans Jean 4, Jésus dit que l'eau qu'il lui donnera, c'est-à-dire le Saint-Esprit, deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc ici, la réponse est très claire. En Éphésiens 1, verset 14, Paul nous dit que le Saint-Esprit représente en quelque sorte la garantie du salut. Nous avons reçu les arts de l'Esprit. C'est-à-dire que la réception du Saint-Esprit est une partie du salut, mais pas encore le salut complet, et en même temps la garantie à venir de ce salut complet. Il n'y a pas de salut sans l'œuvre du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 5. Il s'agit du gage de notre délivrance qui un jour sera complète. La présence du Saint-Esprit en nous, l'œuvre du Saint-Esprit, est la preuve pour nous de notre salut et la certitude qu'un jour ce salut sera complet. Romains 8, verset 23. Il est aussi question du Saint-Esprit comme prémisse de la vie future, de la moisson à venir. Autre texte, Apocalypse 7, verset 17, où il nous est dit « L'agneau les conduira vers les sources de la vie ». Et dans le chapitre 22 de ce même livre de l'Apocalypse, nous voyons un fleuve de vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, limpide comme du cristal. Bon. Il y a là une réminiscence des fleuves de l'Éden, quatre fleuves de l'Éden, qui arrosaient toute la terre, et au-delà, bien sûr, c'est l'image du Saint-Esprit. Par conséquent, le Saint-Esprit a une place, manifestement, dans la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse. C'est donc le Messie qui en est le dispensateur. Il est, lui, la source de la vie. Donc, quelques réflexions ici pour nous montrer cette importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi. Dans le fameux texte des Thessaloniciens, 2e aux Thessaloniciens, chapitre 2, où il est question de l'obstacle à la venue de l'Antichrist. Il y a deux obstacles, en fait. Dans une première expression, il est dit, vous savez, ceux qui le retient. Ceux qui le retient, c'est un neutre en grec. Et puis, quelques versets plus loin, il nous a dit, il faut seulement que celui qui le retient, masculin, pronom masculin, soit ôté, soit retiré. Donc ici, il s'agit d'une réalité personnelle. Donc, la plupart des commentateurs, avec raison, me semble-t-il, voient dans ces deux réalités, l'Église d'une part, le Saint-Esprit d'autre part. Ça veut dire que l'Église est le lieu privilégié de l'action du Saint-Esprit. Ce qui ne veut pas dire que l'Esprit ne puisse pas travailler en dehors de l'Église. Le Saint-Esprit peut parler en dehors de l'Église à un païen, le convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit peut révéler Jésus à un païen, en dehors de tout contact avec l'Église, si le Seigneur veut le faire. C'est relativement rare, mais ça peut se faire. Mais l'Église est le lieu où s'exerce d'une manière privilégiée l'action du Saint-Esprit. Et quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec elle, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour le monde païen. Maintenant, quelques dernières réflexions avant de terminer cette étude sur le Saint-Esprit. Un certain nombre de textes nous montrent que l'on peut pécher contre le Saint-Esprit. C'est le cas notamment d'Ananias et de Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit. Acte 5, verset 3-4, voir également Éphésiens 4, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Des incroyants peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit. On peut résister à sa puissance. Acte 7, verset 51. Et Jésus qualifie le blasphème contre le Saint-Esprit de quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit est essentiellement le fait des païens, bien évidemment. En quoi se manifeste ce péché impardonnable, dont parfois certains chrétiens craignent d'être coupables, heureusement, d'une manière non fondée? Non. Le blasphème contre le Saint-Esprit, comme le montre le contexte, c'est attribuer au diable ce qui est manifestement l'œuvre de Dieu. Attribuer au diable une œuvre de Dieu pour mieux pouvoir la discréditer et surtout pour résister et refuser de se soumettre à cette œuvre de l'Esprit-Saint. C'est dans cela que le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Car il manifeste alors l'endurcissement irrémédiable du cœur. Celui qui agit de cette manière manifeste qu'il est pleinement conscient de la situation, mais que délibérément, sciemment, volontairement, il cherche non seulement à résister à l'œuvre de l'Esprit, mais à la discréditer auprès des autres, pour empêcher les autres d'être sauvés, de se tourner vers le Seigneur. Alors on voit évidemment tout de suite tout ce que ce péché peut avoir de terrible. C'est un petit peu ce que Jésus disait aux pharisiens, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient y entrer. Bon, que quelqu'un ne veuille pas entrer dans le salut, c'est son affaire. Qu'il cherche à empêcher également les autres d'y entrer, c'est faire l'œuvre de Satan. Et c'est en cela que sa culpabilité est donc terrible. Par contre, ce que peut faire un chrétien, c'est affliger, attrister le Saint-Esprit. Paul met en garde contre cela. Bon, on peut affliger, attrister le Saint-Esprit par le péché, par l'endurcissement du cœur, par la non-écoute de la voix du Saint-Esprit. Mais il est bien évident que nous sommes là dans un péché qui est infiniment moins grave que le blasphème contre le Saint-Esprit et qui ne lui est en aucune manière comparable. On peut se repentir d'avoir attristé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit revient. Et puis, pour un chrétien, on peut aussi éteindre le Saint-Esprit. Ceci en négligeant les dons reçus. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est grave d'une certaine manière, mais qui n'est pas irrémédiable. Et c'est pourquoi Paul exhorte à plusieurs reprises d'attrister le Saint-Esprit et aussi d'éteindre les dons spirituels. Bien, si vous voulez, on peut en rester là pour ce qui concerne le Saint-Esprit. Je crois que nous avons fait le tour de l'essentiel de la doctrine du Saint-Esprit, mais nous n'avons pas terminé ce que l'on appelle en théologie systématique la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes spirituels. Car si l'étude du Saint-Esprit est la partie essentielle de la pneumatologie, nous savons par la parole de Dieu qu'à côté du Saint-Esprit, il y a d'autres esprits. Et une étude systématique de la doctrine ne peut pas faire l'économie de l'étude des autres esprits à côté de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons maintenant intituler cette étude « Le monde des esprits ». Et le monde des esprits, c'est d'abord les anges, avec les bons anges et les mauvais anges, et parmi les mauvais anges, le plus illustre d'entre eux, Satan. Puis ensuite, les esprits méchants, les démons. Et éventuellement, on pourrait aussi s'attacher à parler des esprits des morts, mais nous laisserons cet aspect des choses pour l'étude de l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. On le classe soit dans la pneumatologie, soit dans l'anthropologie, peu importe. Donc, premier grand titre de ce chapitre sur le monde des esprits, les anges. Le premier point à souligner, c'est la réalité des anges. Car nombreux sont aujourd'hui ceux dans le monde chrétien qui nient la réalité des anges. Or, la Bible est claire. À plus d'une reprise, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est question d'anges. Nous voyons ces anges qui viennent visiter Abraham, qui viennent délivrer Lot à Sodome. Nous voyons des anges qui viennent vers Daniel pour lui annoncer les choses à venir, vers Zacharie pour lui expliquer des visions. Nous voyons des anges qui interviennent dans la vie de David. Bref, dans le Nouveau Testament, des anges annoncent la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. Des anges libèrent les apôtres, apparaissent à Corneille, etc. Dans le livre de l'Apocalypse, il est clair que le ministère des anges est très important. Donc, à moins de nier l'inspiration de nombreux textes de l'Écriture, nous devons reconnaître que les anges sont une réalité dont la Bible nous parle d'une manière extrêmement explicite. Ce point étant posé, que sont les anges ? Qui sont les anges ? Le livre de l'Épître aux Hébreux nous répond à cette question. Il nous dit, ce sont des esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des esprits. Et des esprits envoyés. C'est en effet la signification du mot ange. En hébreu, le mot ange se dit malach. C'est tout simplement un envoyé. Ça peut d'ailleurs être un envoyé tout à fait humain, naturel. Tel roi envoie des anges, c'est-à-dire des messagers à tel autre. Et on pourrait traduire cette parole par des anges. Donc, les anges sont les envoyés de Dieu. De la même manière qu'un roi humain a des envoyés pour communiquer avec ses serviteurs, avec d'autres rois, des ambassadeurs, si on appellerait ça aujourd'hui, si vous voulez. De la même manière, Dieu a des esprits à sa disposition pour accomplir sa volonté, et en particulier pour agir, nous est-il dit, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire des élus. Des esprits, c'est-à-dire que nous avons affaire ici d'abord à des êtres qui sont sans corps. L'homme, nous aurons l'occasion de le voir, est esprit, âme et corps, les anges, sont des êtres qui sont uniquement spirituels. Et lorsque les anges apparaissent sous une forme visible avec un corps, c'est en quelque sorte une matérialisation temporaire qu'ils opèrent dans le cadre de la mission spécifique qui leur est alors confiée. Mais je dirais que dans leur élément naturel, si je peux parler ainsi, les anges sont dépourvus de corps. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi dépourvus d'ailes. Et la Bible nous parle d'ailes parfois en fonction des anges. Mais ceci est aussi une matérialisation temporaire de l'ange et qui exprime essentiellement leur extrême mobilité, si j'ose dire. N'est-ce pas ? Une de ces images anthropomorphiques dont la Bible affectionne, que la Bible affectionne, pardon. C'est pourquoi également les anges n'ont pas de sexe. Et cette fameuse querelle byzantine sur le sexe des anges est une ineptie, une absurdité. Les anges, étant des purs esprits, ne se reproduisent pas. Ils n'ont donc pas de sexe. Alors, les anges sont des esprits, certes, mais ce sont aussi des créatures. Et dans ce sens-là, ils sont semblables aux hommes. Ce sont des êtres créés. Ils ont eu un commencement. Quand ont-ils été créés ? La Bible ne le dit pas. Mais il est clair que c'est une création qui est antérieure à la création des hommes. Car quand l'homme vient sur la terre, quand l'homme est créé sur la terre, les anges existent déjà. Et le livre de Job, en particulier, nous dit qu'au moment où Dieu crée la terre, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, éclataient en chants d'allégresse. Il y a, nous verrons quand nous parlerons de Satan, de fortes probabilités pour situer relativement longtemps avant la création de l'homme, la création des anges. Mais nous verrons justement que la création de l'homme est aussi en relation avec la création des anges. Les anges, parce qu'ils sont des créatures, sont aussi des êtres libres. Plutôt des créatures à l'image, des esprits plutôt, pardon, que des créatures. Et c'est pourquoi nous trouvons à la fois des bons et des mauvais anges. Parce que les anges sont donc des créatures qui sont jusqu'à un certain point d'une nature semblable à la nôtre, du moins sur le plan spirituel, les anges ne doivent pas être adorés. Et plusieurs textes de l'Écriture nous le montrent d'une manière explicite. Par exemple, Apocalypse 19, verset 10, où Jean tombe à genoux devant l'ange qui lui révèle les mystères et l'ange lui dit « Non, garde-toi de le faire, je ne suis que ton compagnon de service. » Il y a une certaine égalité, en quelque sorte, entre l'ange et la créature humaine. Nous trouvons la même chose avec Daniel. Paul nous parle aussi, dans Colossiens 2, verset 18, du culte des anges, qui est une hérésie. Et le fait d'adorer les anges, nous dit-il, pourrait nous priver du prix de la course. Et c'est pourquoi la religion catholique, qui a prôné le culte des anges, Michael, les saints anges, etc., a violé manifestement ici ces différents interdits que nous trouvons en rapport avec le culte des anges. Parce que justement, nous l'avons dit, ce sont des esprits, ils peuvent éventuellement, en relation avec les hommes, prendre des formes humaines. Et Jésus nous dit qu'à la résurrection, les élus ne pourront plus mourir, ils seront semblables à des anges, et que par conséquent, ils ne se reproduiront plus non plus. Donc ici, nous voyons que ils ont un privilège que la créature humaine n'a pas. S'ils sont des êtres créés, ils sont des êtres immortels. Ils jouissent déjà de l'immortalité dans laquelle les élus entreront un jour. De nombreux textes nous montrent que les anges ont été créés en très grand nombre. Nombreux textes nous parlent de myriades d'anges, c'est-à-dire des millions et des millions d'anges, tels par exemple Daniel 7, verset 10, Matthieu 26, 57 et d'autres textes dans l'Apocalypse. Donc, il y a un nombre extrêmement important de ces êtres célestes qui sont au service de Dieu. Ils sont également au service du Messie, de Jésus. Colossiens 1, verset 16, nous dit en effet qu'ils ont été créés par lui et pour lui, pour accomplir son œuvre. Bien que les anges soient par rapport aux élus leurs compagnons de service, il n'en demeure pas moins qu'ils sont supérieurs aux hommes quant à la force et quant à la puissance. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Il dispose en effet de la puissance de Dieu. Mais ce ne sont pas des êtres qui sont dépositaires d'une puissance illimitée. Parce que ce sont des créatures, ils sont limités. Ce ne sont pas des demi-dieux. Ce sont encore une fois des créatures d'une autre nature que la nôtre. Mais uniquement cela. Or, nous voyons aussi que la terre a été désolée à cause du péché des anges. Et certains commentateurs pensent, avec des arguments qui ne sont pas dépourvus de pertinence, que l'expression que nous trouvons au commencement, la terre était informe et vide, la terre était désolée, la terre était tohu-bohu, est une mention justement de cette désolation qui était le fait du péché des anges. En tout cas, l'apôtre Jude et l'apôtre Pierre nous parlent de ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ce qui fait que Jésus peut dire que, ou plutôt Paul aussi le confirme, que les élus jugeront les anges. C'est-à-dire précisément ces anges qui n'auront pas gardé leur dignité. Les anges sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 65 fois dans le Nouveau Testament. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que même déjà du temps de Jésus, un certain nombre de gens niaient leur existence, notamment les Sadducéens. Les anges sont donc des créatures qui ont une personnalité propre. Bien qu'ils soient extrêmement nombreux, ils ont une personnalité, une volonté, une individualité propre. Seulement, à l'inverse de l'homme, ils n'appartiennent pas à une race. Ce sont uniquement des individus. De nombreux textes nous montrent qu'il y a une hiérarchie parmi les anges. Paul nous parle des anges, des archanges, des chefs, des principautés, des pouvoirs. Nous entendons parler de catégories spéciales d'anges, telles par exemple les chrouvim, ce qu'on appelle les chérubins, qui semblent être des créatures, je dirais presque des gardiens, les gardiens de la présence de Dieu, la majesté de Dieu. Ce sont eux qui empêchent l'approche du jardin d'Éden après la chute. Ce sont eux qui sont autour de la face de Dieu. Nous entendons parler des tsroufim, des séraphins, de ces êtres brûlants, ardents, littéralement signifie le mot hébreu. Et puis nous entendons parler aussi des anges de la face. Des anges qui ont une dignité particulière, qui voient la face de Dieu, qui sont tout proches de la majesté divine, plus proches que d'autres. Il y a des anges qui ont l'aspect d'animaux. Nous lisons ça dans l'Apocalypse, avec des animaux divers d'ailleurs, n'est-ce pas ? Etc. Et nous voyons précisément que ces anges de la face en particulier semblent à être une catégorie tout à fait particulière d'anges qui, à la limite, sont interchangeables avec la personne même de Dieu. Dans l'Ancien Testament, notamment, cela apparaît tantôt, l'ange de l'Éternel apparaît à tel, par exemple, dans la lutte avec Jacob, il lutte avec l'ange de l'Éternel. Et sans transition, le même texte nous dit « Et l'Éternel lui dit ». Et alors, même chez certains commentateurs chrétiens, l'ange de l'Éternel a donné lieu à des spéculations nombreuses, comme quoi il s'agirait de Jésus, en fin de compte. Je pense personnellement que c'est un peu forcer les choses. Je ne pense pas qu'il soit possible d'aller aussi loin. Mais il est certain que l'ange de la face, l'ange de l'Éternel, est en fait ce que les théologiens byzantins appelaient une hypostase de Dieu. Vous vous souvenez qu'on a employé ce terme quand on a étudié justement la Trinité, et nous avons dit que donc Dieu est un en trois hypostases. Dieu a la possibilité de s'hypostasier, ça veut dire de se manifester, de se rendre manifeste, par un certain nombre de voies. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc quand Dieu veut se révéler à un homme, il est obligé de prendre la forme d'un ange. Et alors, si vous voulez, il y a une distanciation, il y a une présence en même temps. De la même manière que Dieu étant Jésus, que Dieu est dans le Saint-Esprit, Dieu est pour un temps limité dans l'ange de la face. Et là, il nous a dit une chose intéressante aussi, c'est que Jésus est supérieur aux anges de la face. Le fait que les anges soient si nombreux est aussi souligné par une expression qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament en particulier, l'Éternel des armées. De quelles armées s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des armées angéliques. Les anges sont organisés comme une armée. Ils exécutent la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les ordres de Dieu, comme des soldats exécutent les ordres de leur chef. C'est ce que dit le psaume 103. Bénissez Dieu, vous tous ces anges qui êtes élevés en dignité, qui obéissez à sa parole. Et en même temps, cela montre leur nombre. Enfin, les anges sont parfois spectateurs des actions des hommes. Et c'est ainsi que Paul pourra dire, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. En quelque sorte, les anges sont spectateurs de ce combat que l'homme livre sur la terre contre les puissances mauvaises, contre le péché. Ils applaudissent aux victoires et ils se désolent aux défaites. Maintenant, les anges ne sont pas seulement des spectateurs, ce sont aussi des acteurs dans ce drame. Et nous voyons qu'ils ont de très nombreuses activités. Parmi les anges, les hiérarchies angéliques, il y a, semble-t-il, deux anges qui ont une dignité particulière. C'est les deux seuls qui nous sont cités par leur nom dans la parole de Dieu. Les spéculations juives ont donné de très nombreux noms à d'autres anges, mais c'est extérieur à la révélation biblique. La révélation biblique ne nous révèle sous leur nom que deux anges. Gabriel, qui semble être d'une manière privilégiée le messager de Dieu. Gabriel signifie littéralement « ma force est Dieu » ou « étant Dieu ». Et la force ici, c'est la Gvoura, qui est une certaine hypostase aussi de Dieu dans la tradition juive. Par exemple, de la même manière qu'on ne veut pas employer le nom de Dieu pour ne pas le prendre en vain, on parle de la puissance. Ah, si la puissance pouvait me donner telle ou telle chose, c'est-à-dire si Dieu. Et la puissance, n'est-ce pas, elle est aussi assimilée avec le Saint-Esprit, surtout dans le Nouveau Testament. Jésus dit, vous recevrez de la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et c'est Luc qui nous dit aussi que Jésus remonté au ciel, s'assied à la droite de la puissance. Et il répand la puissance. L'Esprit. N'est-ce pas ? Donc Gabriel ici, l'ange de la puissance, semble être l'ange qui est associé avec le ministère du Saint-Esprit. Et nous le voyons effectivement intervenir auprès de Zacharie, de Daniel, de Marie, etc., comme messager de Dieu, comme, en quelque sorte, celui qui annonce les oracles de Dieu comme prophète de Dieu, le prophète surnaturel. Donc un rôle qui est, je dirais, éminemment charismatique, lié avec la puissance du Saint-Esprit. Et puis ensuite, le deuxième ange qui est cité par son nom, c'est Michaël, qui est comme Dieu. Or, Michaël semble être un ange particulièrement associé, préposé à la protection du peuple d'Israël. Son ministère semble être en relation avec les destinées du peuple d'Israël. C'est en tout cas ce qui apparaît dans le livre de Daniel, où Gabriel, justement, vient vers Daniel en disant, bien, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 3 semaines et personne ne m'aide, si ce n'est Michaël, votre chef. Et dans le chapitre 12 du même livre de Daniel, Gabriel dit, dans ce temps-là, se lèvera Michaël, votre chef. Le temps de détresse, le temps où Israël sera la proie de l'Antichrist, dans ce temps-là, se lèvera Michaël, votre chef. Dans l'Apocalypse, nous retrouvons également Michaël qui fait la guerre au dragon, c'est-à-dire à Satan, au chapitre 12, quand Satan veut détruire le peuple d'Israël. Et précisément, le texte de Daniel 9 nous dit une chose très intéressante. C'est que les nations, en tant que telles, ont aussi une certaine forme d'hypostase. C'est-à-dire une personnification. Et alors, cette hypostase, cette personnification est négative, mauvaise. C'est une puissance mauvaise. Paul nous parle de ça quand il parle des puissances que le Seigneur a traîné dans son cortège de triomphe, vous vous souvenez, dans l'Épître aux Colossiens. La puissance des nations. Et il y a des chefs des nations, des puissances des nations, des anges des nations. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 3 semaines. Puis après, viendra le chef du royaume de Grèce. Il y a là des puissances diaboliques, angéliques, mais diaboliques, qui conduisent à leur insu les destinées des nations. Il semble que la nation d'Israël soit la seule qui échappe à cette emprise diabolique. Et que là où un être diabolique dirige la destinée des nations, eh bien, c'est un ange et non l'un des moindres qui préside aux destinées d'Israël. Et c'est pourquoi il y a guerre. Et c'est pourquoi Israël est constamment opposé aux nations. Et en même temps, ça relativise drôlement pour nous l'idée de patrie, de nationalisme, le culte de la patrie. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que la patrie est devenue l'objet d'un véritable culte au sens religieux du terme, ce qui montre bien qu'il y a là une dimension spirituelle derrière les nations. Or, ces nations, nous les retrouvons à la fin dans le livre de l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, où les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Mais les nations sont dépouillées de leurs anges. Elles sont devenues inoffensives. Et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de nation chrétienne. C'est pourquoi l'idée constantinienne d'une chrétienté est anti-biblique. Ça ne veut pas dire que le chrétien est anti-patriote, mais il n'est pas l'objet, ou plutôt il n'est pas le sujet plus exactement du culte de l'État, du culte de la nation. Il sait que derrière cette nation, il y a des puissances démoniaques qui seront détruites au retour de Jésus. Donc ici, deux anges qui sont connus par leur nom. Bon, les anges des nations sont cités aussi dans Éphésiens 3, verset 10, Colossiens 2, verset 15, Éphésiens 6, verset 12, etc. Une des autres fonctions des anges, nous l'avons dit, c'est d'intervenir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et les anges de Dieu sont envoyés souvent pour protéger le peuple de Dieu. Tel serviteur de Dieu dira dans le livre des Actes, je reconnais maintenant que Dieu a envoyé son ange pour me protéger. Les anges vont fermer la gueule des lions alors que Daniel est jeté dans la fosse. Les anges vont protéger les 3 camarades de Daniel qui sont jetés dans la fournaise ardente. Donc il y a des protections angéliques dont nous ne sommes pas toujours conscients. Car nous allons voir dans un instant qu'un des caractères justement des anges, c'est leur discrétion, leur humilité. Ils sont là pour glorifier le Seigneur et pas pour se glorifier eux-mêmes. Exceptionnellement, Dieu permet que les anges donc se matérialisent et qu'on soit conscient des protections angéliques. Mais la plupart du temps, nous sommes gardés, nous sommes protégés, sans même que nous en soyons conscients, par les anges. Et je crois que quand nous serons dans la gloire, nous verrons alors là combien souvent les anges sont intervenus en notre faveur. Les cas d'intervention angélique sont nombreux dans la parole de Dieu, c'est vrai, mais aussi il y a des cas modernes. Je citerai simplement deux exemples. Un premier qui concernait, je crois que j'ai déjà raconté, un missionnaire qui devait se rendre dans la brousse avec une importante somme d'argent. Évidemment, il devait transporter cette somme d'argent dans un village distant d'un certain nombre de kilomètres et il a été décidé à partir seul parce qu'il n'avait pas la possibilité de partir autrement. Et les chrétiens qui étaient autour de lui lui disent « Tu crois que c'est prudent de partir tout seul avec cette somme d'argent importante ?» Le Seigneur me gardera. Bon, il est parti. Il a campé plusieurs jours dans la brousse. est arrivé à bon port, tout s'est bien passé. Quelque temps plus tard, de retour dans son village, il voit arriver un certain nombre d'indigènes qu'il connaissait comme étant des gens sans foi ni loi, mais qui venaient en disant « Nous avons envie de nous convertir. » Alors ça l'a un peu surpris dans le bon sens. Il dit « Bon, oui. » Il dit « Parce que on a fait une expérience qui nous a bouleversés. » Il dit « Tu te souviens l'autre jour quand tu es parti dans la brousse, là-bas, dans ce village ?» Oui. On savait que tu avais de l'argent avec toi, tu avais telle somme sur toi. Oui, dis-moi, comment vous savez? Ah, on savait. Par quel moyen ils avaient su, ils l'ont expliqué. On t'a suivi. On était décidé à te tuer pour te voler cette somme d'argent. Tu as campé à tel endroit, dans telle clairière, oui. Et on était là, on allait se sauter dessus, mais ce soir-là, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait 24 personnes qui t'accompagnaient. 24 personnes qui m'accompagnaient. T'es tout seul? Ah non, je te garantis, il y avait 24 personnes. On les a comptées, c'était 24. Et on n'aurait jamais pu t'approcher. Ils étaient là, ils étaient armés, ils veillaient autour de toi. On n'a pas pu t'approcher. Ah bon? Le missionnaire a compris que Dieu avait envoyé ses anges. Quelque temps plus tard, il était de retour dans son pays d'origine, en Angleterre. Et dans une église, il racontait cette expérience pour montrer comment le Seigneur l'avait gardé et comment ces gens ensuite s'étaient convertis. Et à la fin de la réunion, le pasteur vient lui dire « Frère, vous pouvez nous dire exactement le jour où ça s'est produit, cette affaire-là oh. ?» Alors il réfléchit un peu, il dit « Oui, je pense que oui, ça doit être tel jour, tel jour. » Il dit « Oui, c'est bien ce que je pensais, dit le pasteur. » Ce soir, on avait notre réunion de prière. Je me souviens très bien de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir-là, on a senti qu'on devait prier spécialement pour vous, que vous étiez dans un grave danger. Alors on a prié, on dit « Seigneur, garde notre frère là-bas qui doit certainement avoir besoin de toi, envoie tes anges. » Et ce soir-là, à la réunion de prière, on était 24. Et les anges là-bas, ils étaient 24. Ouais. Le deuxième incident, le deuxième cas, c'est celui que vous avez lu sûrement, certains d'entre vous, la plupart sûrement même, dans l'histoire de Butler, quand Butler avait reçu de Dieu l'ordre de se rendre à Amsterdam un jour de 1er janvier, alors qu'il était en vacances chez sa mère. Un jour où pratiquement aucun avion ne circulait, il était arrivé à Amsterdam sans comprendre le plan de Dieu. Et voilà, il avait dit « Seigneur, maintenant je suis à Amsterdam, dans cet aérodrome, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et juste quand l'avion avait atterri, il y avait eu un brouillard terrible qui s'était abattu sur cet aérodrome d'Amsterdam. Et tous les avions avaient été cloués au sol. Et Butler était là, dans ce hall de l'aérogare, et il priait, il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pas de réponse. Il dit « Bon, Seigneur, je vais rester jusqu'à telle heure. Et puis si tu me dis rien, ben, je reprendrai l'avion pour chez moi, parce que je n'ai rien à faire ici. » Et juste comme il allait repartir, soudain, un homme est venu vers lui, je crois. Un homme qui semblait véritablement être quelqu'un qui... un visage surnaturel d'un autre monde. Et il avait un livre à la main, je crois. Vous vous souvenez peut-être ce qui était écrit ? Qu'est-ce que c'était ? Comment ?
Pour te conduire à la
voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il a compris que Dieu avait envoyé son ange pour lui indiquer ce qu'il avait à faire. Et quelque temps après, donc, est venu cet hindou qui s'est approché de lui, monsieur, je vous observe depuis tout à l'heure dans tout cet aérodrome, vous avez quelque chose que j'ai toujours cherché, que je n'ai jamais trouvé nulle part. Est-ce que vous pouvez me dire votre secret ? Et Butler lui a rendu témoignage. Et pendant tout un temps, il lui a exposé le chemin du salut. Cet homme s'est converti là, sur ce banc de l'aéroport d'Amsterdam. Et juste quand il a terminé, il s'est séparé de cet hindou, comme par enchantement, le brouillard qui avait paralysé tout le trafic aérien s'est levé et on a annoncé que l'avion qui repartait pour l'Allemagne allait décoller dans quelques instants, que les passagers donc devaient embarquer et Butler a pu embarquer, retourner ainsi chez lui. Donc ici, nous voyons les interventions angéliques encore de nos jours. Il est certain que Dieu n'a pas changé, que Dieu envoie encore ses anges. Quel est le caractère des anges ? Le psaume 103 et 104 nous disent que ce sont des êtres obéissants qui écoutent la parole de Dieu et qui s'y soumettent. Deuxième chose, il nous est dit que ce sont des êtres qui adorent. Un autre psaume dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et dans l'Apocalypse, nous voyons qu'une des fonctions importantes des anges, c'est l'adoration. Ils sont devant le trône de Dieu, ils lui rendent un culte jour et nuit. Troisième point, les anges sont doués d'une grande sagesse. 2 Samuel 14, verset 17, « La femme de Tekoa qui vient plaider la cause d'Absalom devant David déclare « Mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu connaissant le bien et le mal. » Donc, soulignons ici la sagesse des anges. Néanmoins, les anges ne peuvent pas lire dans nos pensées. 1 Roi 8, verset 39. Ils ont une connaissance limitée quant au mystère de la grâce. 1 Pierre 1, verset 12. Et ils désirent même plonger le regard dans les mystères de la grâce qui nous sont faits. Ensuite, une des qualités les plus importantes des anges, c'est leur humilité. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas cités par leur nom. C'est la raison pour laquelle ils refusent l'adoration, adorent Dieu. Leur but est de donner gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, si la Bible est remplie du ministère des anges, il est clair que les anges ne sont pas au premier plan, jamais. Et dans notre vie, dans notre piété, nous devons agir de cette manière-là. Ne pas non plus leur donner, comment dirais-je, une place prépondérante. Ils sont là, nous devons savoir qu'ils sont là. Ils agissent en notre faveur, nous devons le savoir, nous y attendre. Mais pas avoir cet aspect qui s'est développé dans certains milieux catholiques, avec ce culte des anges qui est condamné par la parole du Seigneur. Seulement, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Si les anges sont remplis d'humilité, il nous est dit qu'il ne faut pas porter à leur endroit de jugement injurieux. 2 Pierre 2, verset 11, Jude 9. Ne pas porter de jugement injurieux sur les anges, car il y aura là, semble-t-il, des comptes à rendre. Les anges sont des êtres qui, tout en étant humbles, sont extrêmement puissants. Psaume 103, verset 20. Il y a différentes hiérarchies dans les puissances, nous l'avons vu, mais les anges sont dépositaires de la puissance divine. Et c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec cela. Deuxièmement, les anges sont saints. Les saints anges. Marc 14, verset 10. Ils ont la marque de la personne divine au service de laquelle ils sont. Et en tant que tels, ils exécutent les ordres de Dieu, les décrets divins, les desseins divins. Éventuellement, ils peuvent aussi exécuter les jugements de Dieu. C'est ce qui se passe à Sodome. C'est eux qui détruisent la ville. C'est ce qui se passe à Jérusalem, sous Nebuchadnezzar. Et c'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Ce sont les anges qui déversent sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Ce sont les anges qui sonnent les trompettes des jugements de Dieu. Mais pour ce qui concerne les croyants, ils instruisent. Ils avertissent. Ils encouragent. Tel l'ange qui apparaît en songe à Paul quand il est à Corinthe, il lui dit « Ne crains pas Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » L'autre qui lui apparaît également quand il est sur le bateau et qui lui annonce qu'il ira devant César et qu'aucun des compagnons qui naviguent avec lui ne sera perdu. Il révèle les secrets. Il délivre, comme l'ange qui vient délivrer Pierre de sa prison, qui fait tomber ses chaînes, qui ouvre les portes de Jérusalem, qui sont fermées. Ce sont aussi les anges qui roulent la pierre le matin de Pâques pour que Jésus sorte vivant du tombeau. Les anges sont aussi ceux qui, bien évidemment, servent Dieu nuit et jour. Et puis enfin, en Luc 16, nous voyons un ministère tout à fait spécial des anges, Luc 16, 21. Ils aident les justes à l'heure de la mort. Ce sont ces anges qui portent Lazare dans le sein d'Abraham. N'est-ce pas ? Enfin, il y a un dernier point qu'il nous faut envisager. C'est cette notion que le catholicisme a fort développée de l'ange gardien. D'après la théologie catholique, chaque homme, chaque être humain, chaque chrétien du moins, chaque baptisé pour eux, a un ange qui s'occupe particulièrement de lui. Cette doctrine repose sur un verset de l'Écriture où Jésus parle des petits-enfants et il dit, leur ange voit, si vous vous souvenez ce texte, il dit, ne scandalisez pas un seul de ces petits car leur ange voit le Père nuit et jour. Je pense qu'il y a un peu de vrai et tout n'est pas vrai dans cette doctrine. Je crois que en ce qui concerne les croyants, il y a des anges qui s'occupent spécialement de nous. Nous voyons cela aussi dans l'Apocalypse, où il est question l'ange de l'église de Thyatire, l'ange de l'église de Pergame, l'ange de l'église de Philadelphie. Bon, on peut penser que c'est le ministre, comment dirais-je, pasteur ou responsable de cette église, mais je crois que c'est plus. De la même manière que les nations ont des anges qui, si j'ose dire, défendent leurs intérêts devant le trône de Dieu, eh bien, je crois que les églises ont aussi des anges qui s'occupent spécialement d'elles, ce qui est un peu logique d'ailleurs. Et il y a des anges qui s'occupent de groupes humains, certainement, aussi. Donc, des jeunes enfants. Éventuellement, il peut y avoir des anges qui cheminent plus particulièrement avec tel ou tel, dans des circonstances particulières. En fait, ce verset ne nous permet pas de construire une doctrine structurée dans ce domaine-là, mais comme tout ce qui nous est dit des anges, cela nous laisse entrevoir des perspectives, si vous voulez, qui restent assez floues, mais qui nous laissent entendre que le ministère des anges est certainement beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond que ce que nous pensons. Mais précisément, pour que nous ne soyons pas tentés de donner la gloire à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, Dieu volontairement laisse les choses dans le flou, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne nos relations avec les anges. Parmi les œuvres des anges, nous voyons aussi qu'ils pourvoient aux besoins des enfants de Dieu. Ils les gardent du mal. Psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il enverra ses anges pour te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il détourne les coups de l'ennemi. Et nous voyons aussi que les anges auront une part au retour de Jésus. Jésus reviendra avec tous ses anges, nous est-il dit. Il nous est dit aussi que la Torah a été communiquée à Moïse par des anges. Là aussi, les anges ont une part. Et enfin, il nous est dit qu'ils ôteront les pécheurs de la terre en exécutant la colère de Dieu. Dans la fameuse parabole du bon grain livré, nous voyons que Jésus nous dit que les serviteurs sont les anges et qu'au temps de la moisson, ils enlèveront tous les pécheurs et tous ceux qui causent du scandale. Et nous retrouvons cette même idée dans l'Apocalypse quand nous avons vu tout à l'heure les anges comme exécuteurs des jugements de Dieu. Donc ici, nous voyons combien l'action angélique est importante. Et importante sur le plan, si vous voulez, de son étendue essentielle. Et alors, je crois que c'est pour nous quelque chose de tout à fait réconfortant, d'encourageant, de savoir que nous sommes environnés de ces légions d'anges, ces nuées d'anges qui nous observent, qui nous soutiennent, qui interviennent à plus d'une reprise dans nos vies sans même que nous en ayons conscience, pour nous garder, pour nous protéger. Et que dans les moments difficiles, eh bien, nous pouvons compter sur des anges que le Seigneur pourrait envoyer pour nous aider, pour nous délivrer, pour intervenir d'une manière ou d'une autre. Et puis de savoir que, somme toute, il y a, comme le dit le Job, il y a des anges intercesseurs aussi, n'est-ce pas, qui peuvent intercéder pour tel et tel, prendre parti pour tel et tel. Il peut y avoir des intercessions angéliques, mais nous n'avons pas à les solliciter. Nous n'avons pas, nous ne pouvons pas dire, comme le font les catholiques, « Mon ange gardien prie pour moi ». Non. C'est spontané, ils le font. D'ailleurs, nous n'avons pas d'ange gardien attitré, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ça, c'est une exagération catholique, même s'il y a des anges qui s'occupent plus particulièrement de nous, comme nous l'avons vu. Mais par contre, nous pouvons savoir que dans des moments difficiles, des anges peuvent prier pour nous. Et en même temps, intervenir pour, en réponse, nous protéger, nous garder, apporter telle et telle réponse, telle et telle bénédiction du Seigneur. Seulement, s'il y a des bons anges, hélas, il y en a aussi de mauvais. Et le plus grand, le plus important, le plus redoutable d'entre eux, Satan, qui est un ange, justement, mais un mauvais ange. Satan, dont nous aurons à parler ensemble, justement, la prochaine fois. Voilà.